L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico. Classico. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enongue.
Bonjour à tous, bienvenue en Classico, le vol sur volume 3 où on parle d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation de lundi à jeudi entre 10h et 12h. Le commandant bord que je suis très heureuse de vous embarquer quotidiennement dans cet aéronef pour vous mener à diverses destinations aussi passionnantes les unes que les autres. Après les salutations d'usage, merci de bien vous installer et de prendre tout de suite connaissance de notre plan de vol.
Aujourd'hui en Classico avec notre expert, on parle des mises en disponibilité. Le café est au menu de ce vol avec notre passagère du jour, Elvira Ndiaking. Au marché, on va se renseigner sur les pommes de terre. Et puis, nous ferons escale dans l'univers de Marcel. On paye nos factures avec One Bill, c'est l'innovation du jour. Et dans l'Afrique Économie, on reste au Cameroun pour essayer de comprendre l'aggravation de la pauvreté depuis 20 ans.
Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce vol de la semaine en Classico. Et on va tout de suite commencer avec l'expertise. Et on parle de droit. Il y a un concept un tout petit peu flou pour beaucoup qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la mise en disponibilité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des dispositions légales qui encadrent sa durée? Et est-ce que éventuellement votre contrat peut être rompu durant cette période? Et puis si votre patron vous refuse cette mise en disponibilité-là, est-ce que vous avez des recours? Autant de questions que nous avons bien entendu adressées à notre expert, Maître Didier Bétain, avocat au barreau du Cameroun.
L'expert dans Classico.
Bon, pour parler de la mise en disponibilité maintenant, on peut comprendre par la mise en disponibilité, et je vais le préciser, ça concerne plus les fonctionnaires. Ça concerne plus les fonctionnaires que ceux qui sont dans le privé, la mise en disponibilité. Parce que cette précision en vaut la peine. Donc, on va prétendre que la mise en disponibilité, c'est un peu partout. Qu'on peut la ramasser, on peut l'entreprendre du côté des salariés, qui sont dans le privé et qu'on sort. C'est plus les personnes les plus concernées sont des fonctionnaires. Maintenant, qu'est-ce que cette mise en disponibilité, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une situation qui permettra, ou alors qui permet à un fonctionnaire, n'est-ce pas, de cesser son activité professionnelle pendant une période donnée, mais sans rompre son lien avec la fonction publique. On peut aussi dire que pendant cette période, l'agent ne reçoit plus de salaire, ni de droit à l'avancement ou à la retraite. Maintenant, au Cameroun, ce principe, ou alors la mise à disponibilité est fixé par le décret 94/199 du 7 octobre 1994, portant statut général de la fonction publique, qui détaille les différents types de mise en disponibilité. Si nous voulons les comprendre, nous aurons la mise à disponibilité d'office. Ça, c'est lorsque, par exemple, pour des raisons de santé, un fonctionnaire ayant épuisé à suffire ses jours de congé maladie ne peut plus revenir. Maintenant, la mise à disponibilité par convenance personnelle, ça c'est lorsque elle est accordée à la demande, elle est demandée par le fonctionnaire et que, n'est-ce pas, la hiérarchie la lui accorde. Ça c'est parlant de la mise à disponibilité. Maintenant, il y a parfois ceux qui disent, qui parlent de la durée, qui te disent il y a la durée, il y a le renouvellement, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Oui, la durée ou le renouvellement de la mise à disponibilité est nécessaire. Est nécessaire à comprendre. Mais pour mieux la comprendre, il faut se référer aux articles pertinents du décret que je viens de citer, c'est-à-dire le décret numéro 94/199, pour connaître les durées maximales, n'est-ce pas, et les conditions de renouvellement. Lorsqu'on aura parcouru ce décret-là, on pourra précisément savoir quand est-ce que je peux demander, solliciter ma mise en disponibilité, pour quelle durée peut-elle être accordée, et maintenant, comment faire pour la renouveler. Dans les références à ce niveau se retrouvent dans le décret numéro 94/199 que je viens de citer plus haut. Ça peut être pareil pour tout le monde. À ce niveau, vous allez rencontrer, vous allez lire, n'est-ce pas, les conditions de renouvellement et la durée de cette mise en disponibilité. Le contrat n'est pas rompu pendant la période de mise à disponibilité. Il continue, mais il est suspendu. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que pendant cette période, vous ne recevez plus ni salaire, vous n'avez plus le droit à l'avancement, vous n'avez plus le droit à la retraite. Donc, c'est comme s'il était suspendu jusqu'à ce que vous veniez réintégrer votre poste, n'est-ce pas, après la fin de la mise, après l'expiration de la période qui vous a été accordée, n'est-ce pas, à votre demande. Bon, viré, puisque vous n'êtes pas en train de travailler, pour être viré, il faut qu'on vous impute des fautes. Sauf si c'est licenciement, n'est-ce pas, est fait de manière abusive, avec des motifs déguisés. Mais durant cette mise à disponibilité, puisque vous ne travaillez plus pour le compte de cette administration, on peut vous mettre en disponibilité pour une autre administration. Mais n'est-ce pas, l'administration de départ, on peut vous virer. On peut vous virer. Ce n'est que l'administration dans laquelle on vous a certainement mis en disponibilité ou vous êtes sollicité qui peut dire, bon, maintenant, voilà, on regarde les conditions, on ne pourra plus continuer d'évoluer ensemble, on vous reverse à votre administration d'origine. Donc, dans le secteur privé, je pense que on ne saurait parler de mise en disponibilité. On saurait, n'est-ce pas, évoquer un autre terme sur le plan juridique. Comment je peux l'appeler de manière triviale? C'est comme si vous demandez une permission, vous absentez pour un temps, n'est-ce pas, et que vous puissiez justifier, n'est-ce pas, cette absence pour le temps déterminé. Quand je, par exemple, auprès de mon employeur, si je suis employé dans un secteur privé, solliciter une permission de 6 mois, elle peut être confondue à une mise en disponibilité, n'est-ce pas? Peut-être pour aller me soigner ou alors pour faire autre chose, pour une formation, pour quelque chose de bénéfique pour moi, je peux solliciter auprès de mon employeur, n'est-ce pas, une autre forme de mise en disponibilité, une permission, n'est-ce pas, pour une absence prolongée. La contrainte, pas des moyens légaux, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile à dire. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple banal. Vous travaillez pour le ministère de la Défense, par exemple. Donc, c'est l'administration, c'est votre administration à ce niveau. Et qu'il faille vous mettre en disponibilité, que vous sollicitez une mise à disponibilité, bien que celui-ci soit motivé et autre, on peut juger bon que, de l'autre côté, après analyse des faits et de votre requête, juger que cette mise en disponibilité ne peut pas vous être accordée pour des raisons bien évidentes. D'accord? Tout comme vous pouvez être magistrat aujourd'hui, n'est-ce pas? Exercer, on sait que c'est l'administration de la justice et que vous sollicitez, n'est-ce pas, une mise en disponibilité pour rejoindre votre famille, votre mari peut être par exemple ambassadeur, qu'il a été affecté, accrédité, c'est le terme qu'on emploie généralement, et qu'il est accrédité auprès d'un état souverain, vous allez solliciter auprès de votre administration une mise en disponibilité pour savoir rejoindre votre foyer et vous occuper de vos enfants. À ce moment, si c'est motivé pour des raisons, n'est-ce pas, pour des raisons qui peuvent amener votre administration à comprendre qu'elle est de mise, on vous l'accorde. Mais si vous n'êtes pas suffisamment motivé, que c'est pour des raisons fantaisistes, ou pour aller, comme on a vu par exemple, les gars solliciter des mises en disponibilité pour aller au Canada, alors qu'ils ont plutôt prétesté autre chose et qu'on les retrouve au Canada aujourd'hui, n'est-ce pas? L'administration en tiendra compte pour les enseignants qui ont certainement sollicité des mises en disponibilité qui se retrouvent aujourd'hui au Canada. Et le moment venu, on pourra vous radier des effectifs, n'est-ce pas? Et vous révoquer du corps de la fonction publique.
L'expert dans Classico. Dans Classico.
Bienvenue en Classico.
Mais est-ce qu'on a un moyen quand on veut acheter de s'assurer que c'est pas la peinture? Est-ce qu'on peut savoir pour l'acheteur?
Justement, pour l'acheteur qui ne s'y connaît pas, mm-hmm, il suffit juste, si vous avez une lame de rasoir, vous grattez juste un peu.
Qui va te laisser mettre la lame de rasoir sur ce mortier qu'il a fabriqué?
Si je suis sûr que ce n'est pas teinté, le bois, je vous permets.
Ok.
Parce que je sais que après avoir gratté, si ce n'est pas ça, vous allez acheter.
Non, si ce n'est même pas la lame de rasoir, même, on m'a souvent avec les clés là.
Voilà.
On essaye un peu.
Justement.
D'accord.
Mais en une condition que...
De payer après.
Si, ouais.
Si donc, c'est... Sur le oui. Prix et tout. Si je gratte, c'est pas ça.
Oui, oui.
Je paye.
Oui.
Retrouvez Nadine Nanguet de lundi à jeudi entre 10h et 12h. 12h, 12h, 12h. Seulement sur Volume 3. Plus besoin de radio seulement. Tu peux continuer d'écouter ton émission préférée via l'application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun.
Classico.
Hé, pause. Classico se passe aussi sur notre application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classico.
Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes à l'écoute de Classical, programme entre 10h et 12h de lundi à jeudi sur volume 3 où on parle d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Tout à l'heure, on parlait de mise en disponibilité en termes d'expertise juridique. Mais aujourd'hui, on va recevoir notre passagère. C'est une passagère du jour. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler de café. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit. On discute juste après.
Notre passagère du jour chérit le café camerounais. Dans son souci de valoriser, elle nous le propose différemment. Du café en format de poche et qui ne nécessite pas de machine pour en faire partout. Ce n'est pas du cage soluble et elle espère aujourd'hui vous inviter à franchir le pas comme elle a fait. Là, c'est quoi le plaisir de recevoir Elvire Ndiaking, promotrice de Grassland Coffee. Bienvenue à bord.
On a donc le plaisir de recevoir, si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez forcément vu Grassland Coffee ces dernières semaines en termes de déploiement. Et on a donc le plaisir de recevoir Elvire Ndiaking. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez Volume 3.
Merci.
C'est un plaisir de voir le visage derrière la marque, parce que c'est la marque qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vous, un peu moins.
Oui, c'est volontaire.
Non, c'est volontaire. Aujourd'hui, sur Volume 3, vous saurez qui est la jeune et jolie dame qui se cache derrière la marque. Intéressez-vous aux produits, pas à la jeune et jolie dame. On se connaît.
Merci.
Il vaut mieux dire les choses. Moi, avant qu'on commence, je me suis demandé, quand je fouillais un tout petit peu, si en voyant qu'on s'en bat et en écoutant votre patronyme, il y avait un lien de parenté avec Aimé Ndiaking.
Oui.
C'est papa.
Oui.
D'accord. Ok. J'ai plutôt bien fait mes devoirs. Ça veut dire que c'est quoi? C'est lui qui vous a transmis l'amour du café?
Oui, entre autres. Lui, il est plus sur la partie exportation de café vert, même s'il s'est lancé aussi dans le produit fini, parce que le but était de valoriser aussi le produit du terroir camerounais. Et moi, j'ai suivi, j'ai embrayé le pas.
Depuis toute petite,
on est dans le café.
Vous côtoyez les champs de café et tout ça, ça vous a jamais ennuyé?
Non, c'est un domaine passionnant qui se renouvelle tout le temps. Il y a des nouvelles espèces de café, des nouvelles manières de faire le café, les méthodes de consommation aussi qui changent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai abordé le fait que la Gen Z consomme en fait le café sous forme glacée, alors que ma génération, donc les millénials et celle de mon père, uniquement sous forme chaude. Donc en fait, ça permet de redécouvrir le café d'une autre manière et aussi de s'adapter en fait à ces nouveaux consommateurs de café qui sont différents de nous en fait. Donc ça change tout le temps.
Quoi qu'ayant grandi dans ce milieu-là, est-ce que pour vous c'était évident que oui, plus tard vous travaillerez dans le domaine du café et tout ça, ou bien non?
Je dirais oui et non, parce que aussi loin que je me souvienne, même quand j'étais sur les réseaux au tout début d'Instagram, les années 2009-2010, je partageais toujours des recettes de café, mais j'étais loin de m'imaginer en fait que j'allais avoir une marque, que j'allais retourner, même pas retourner en fait, que j'allais m'installer au Cameroun, puisque moi je suis née et j'ai grandi ailleurs.
Oui.
Donc je m'attendais pas à ça.
Mais qu'est-ce qui a finalement qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas?
Je dirais le fait d'être de l'autre côté et de voir en fait la manne financière que produit en fait le café, c'est des milliards, et de voir qu'en fait en début de chaîne, les gens ne gagnent presque rien.
Oui.
Voilà. Moi, je pense que c'est ça qui m'a fait avoir le déclic, et le fait aussi d'avoir un père qui a l'une des plus grosses structures de café, ça aide.
Oui.
Donc on a une magnifique usine, tout est déjà là, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc c'est ça qui m'a poussée. Je voulais donner de la valeur en fait à la chaîne, et surtout si je devais me lancer dans la filière, ne pas être dans la dynamique de juste exporter des grains verts. Ouais. Un peu comme cette dynamique coloniale où l'Africain est bon qu'à aller dans les plantations, récolter son produit et l'envoyer, et nous on nous renvoie le produit avec la plus-value bien plus cher. Moi je voulais aller jusqu'au bout de la chaîne, donc avoir un produit fini, mais avoir un produit fini de très très haute qualité. Et c'est vraiment ça que je mets en avant. Donc le café, il est bio. Notre pépinière, on l'a plantée il y a 4-5 ans, on commence déjà à récolter. Et notre fournisseur d'arabica, il est vraiment sur la même longueur d'onde que nous, et il fallait aussi que tout suive jusqu'au packaging. Je voulais pas avoir un packaging qui fait peur. Quand on était en France, souvent on nous ramenait des produits du Cameroun.
On disait, mais
quand j'étais au Québec, on nous ramenait aussi des produits du Cameroun. Je voyais des packagings bizarres, je me disais, mais ça, on peut même pas mettre ça sur les rayons. Il fallait vraiment que tout soit parfait et que tout soit 100% camerounais. Pour qu'on puisse se dire, ah oui, au Cameroun, on fait des choses super classe, très bien, très carrées. Voilà.
C'est pas toujours bien présenté, mais on sait quand même que le café camerounais, au-delà des frontières, a plutôt une belle réputation. Est-ce qu'en étant de ce côté-là, c'est quelque chose que vous avez perçu et vous disiez que bah, sur le terroir, on ressent pas trop ça?
Alors, je dirais oui et non. Parce que quand on est du côté des exportateurs, le café camerounais a une mauvaise réputation à cause des prédécesseurs qui faisaient pas mal
de mélange,
d'arnaques. Donc quand j'ai commencé à côtoyer des gros importateurs américains, italiens, français, je me suis rendu compte qu'on avait une mauvaise réputation. Par contre, quand j'allais chez les petits torréfacteurs, les artisans qui font du café de spécialité, on avait une très très belle réputation. Donc en fait, on est...
entre deux.
On est dans l'entre-deux. Donc à chaque fois, les petits torréfacteurs doivent aller chez le paysan, ils doivent vraiment aller sur place pour aller chercher le planteur qui fait bien les process et aller directement acheter le très très bon café. Mais de l'autre côté, à une très grosse échelle, le café camerounais a souvent cette petite mauvaise réputation à cause des prédécesseurs qui faisaient des faux mélanges, qui n'envoyaient pas la bonne matière première comme le client avait décidé. Donc je dirais on est sur un entre-deux. Mais il y a une nouvelle génération de torréfacteurs qui sont assez connus au Cameroun, qui font du super travail. Donc du café de qualité, les process respectés, la torréfaction impeccable. Je veux dire, je ne suis pas la seule.
Oui, on en voit de plus en plus dans les grands salons et tout ça.
Exactement, il y a déjà des gens avant moi qui ont eu cette même volonté et qui font déjà du super travail. Là où je vais me différencier avec Graceland, c'est que avec la marque de mon père, quand je faisais les dégustations, j'avais pas mal de retours de personnes qui me disaient « on n'a pas de machine, on ne veut pas avoir de machine, les coupures d'électricité tuent nos machines, etc. etc. » Donc à chaque fois, je pensais à un moyen de ne pas aller vers du faux café, donc du café instantané, mais d'avoir du vrai café premium disponible pour tout le monde. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers les coffee drip.
Ouais, justement, en fait, c'est pas très commun. Donc, vous êtes servi de la faiblesse du produit de papa pour trouver le vôtre. Si on peut dire ça comme ça, puisque lui, c'est pas son rayon. Vous avez vu l'opportunité dans ce que lui ne faisait pas.
En fait, comment dire ? Il y avait un pan de la clientèle qu'il n'arrivait pas à avoir parce que ces clients-là devaient impérativement avoir une machine à café. Donc, j'ai juste...
récupérer cette part de marché là.
L'assemblage n'est pas le même, donc j'ai juste fait une nouvelle marque qui permet de toucher ces Camerounais là qu'on n'arrive pas à avoir, qui veulent avoir du bon café, qui font attention à leur santé, qui aiment le goût, qui aiment la qualité, mais qui ne veulent pas avoir de machine.
Donc le coffee drip, c'est quelque chose qui est très on va dire quoi, très popularisé outre-mer et tout ça, pas du tout. Vous ramenez un tout petit peu le concept ici.
Oui, c'est alors le coffee drip, c'est la version jetable de la Vietnamese drip. Donc il y a une méthode d'extraction qui est très utilisée au Vietnam. Là-bas, ils utilisent cette méthode d'extraction là, ils prennent leur café, ils consomment leur café assez glacé avec du lait concentré sucré. Et le coffee drip est assez populaire en France déjà, en Europe, aux États-Unis, mais pas du tout au Cameroun. Donc alors que ça devrait, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de machine. Donc je me suis dit en fait c'est la méthode d'extraction parfaite pour les Camerounais, et ça me permet en fait de mettre à l'intérieur du super café, et comme ça les gens n'ont plus d'excuses quand ils me disent oh, j'aimerais bien tester son café, mais j'ai pas envie d'acheter des filtres, j'ai pas envie d'acheter une machine, j'ai pas d'électricité, etc. Là, il y a plus d'excuses.
Donc on peut chauffer son eau dans la marmite vite fait là, et puis avoir son
même
café.
Même si Eneo a fait tout ce qu'il veut via le gaz, on a une casserole, on peut se faire un super bon café.
D'accord. À quelle période, quel moment exactement vous pensez à ce projet-là? Est-ce que niveau implémentation, on demande quand même conseil à celui qui a du métier, ou on essaye de peaufiner et puis on lui montre à peu près ce qu'on veut avoir comme résultat définitif et il donne un tout petit peu des conseils puisqu'il a l'expérience aussi?
Alors, j'ai commencé à penser à... Bon, j'avais pas le nom de la marque, mais à ce projet-là en 2023. Et en fait, je l'ai lancé en 2024. Et j'ai fait plutôt beaucoup d'A/B testing. Je me suis dit, moi, je ne vais pas lancer une marque pour lancer une marque. À chaque fois que je vais faire des itérations de test, je vais le distribuer. Et ensuite, on avait un drive où on rentrait tous les retours clients. Donc, c'est un peu... c'est comme si c'était les Camerounais aussi qui avaient fait Graceland Coffee. Et Bien sûr, on demande l'avis d'experts. Donc, j'ai pas mal travaillé avec Charles de l'ONCC, qui est aussi un coffee grader, qui est un professionnel. On n'a plus besoin de le présenter. Bien évidemment, avec mon père, qui a testé. Avec tous les passionnés de café. Ensuite, moi, j'ai aussi fait une formation à la Caféothèque de Paris. Donc, j'ai aussi envoyé des drips à des anciens élèves qui étaient dans ma promotion. Oui. Qui, eux, ont ouvert des coffee shops et eux aussi ont ouvert leur marque de café. Mais en Occident. Mm-hmm. Donc toute l'année 2024, ça a été que A/B testing, itération, amélioration, amélioration, jusqu'à ce qu'on se dise, ok là c'est parfait, on peut lancer une production de coffee drip, investir dans des machines, parce que là on sait que les Camerounais ils sont d'accord sur toutes les saveurs. Mm-hmm. Donc c'est comme ça qu'on a définitivement lancé.
D'accord. Justement, au niveau, quand on pense, on sait que entre le packaging qu'on peut peut-être retrouver, mais on va faire quoi ? C'est le drip, c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Oui, oui. Niveau approvisionnement, ça se passe comment ? On pense à, oui, il nous en faut une grande quantité, on a déjà une idée des fournisseurs, avant de tout lancer, comment est-ce qu'on planifie sur le plan pratique la mise en place de Grassland ?
Alors, justement, comme on a fait de l'A/B testing, ça a été très facile de pouvoir avoir une idée des quantités. Mmh. Parce qu'on savait déjà en fait ce que le palais moyen du Camerounais aime. Est-ce qu'il a... Parce qu'en ayant fait de l'A/B testing, on avait d'abord lancé une saveur chocolat, qui n'existe pas maintenant. On avait lancé une saveur vanille française et sucre de canne qui n'existe plus. Mmh. Donc, on savait exactement à peu près ce que les Camerounais aimaient. On avait déjà aussi lancé déjà Spice Me Up. Donc, on savait quelle quantité on allait prendre.
Ouais.
Et j'avais fait aussi pas mal de recherches de fournisseurs. J'avais reçu une trentaine d'échantillons. Mm-hmm. J'envoyais mes échantillons ici et je les envoyais aussi en duplicata à mon frère, qui est aussi dans la food, qui avait aussi une start-up, qui analysait aussi mes emballages. Et c'est comme ça en fait qu'on a sélectionné. On savait sur telle ou telle saveur, celle-là elle va vraiment décoller. On va prendre 10 000 emballages. La seule erreur qu'on a faite, c'est sur Spice Me Up, où on a été pris de court. Et là maintenant on est en rupture de stock et les emballages sont arrivés en début de semaine au port de Douala.
Alors, je sais qu'on dit Space Me Up pour l'instant, on va arriver à la partie où elle nous explique un tout petit peu tout ce qui se passe avec ce café, parce que c'est pas seulement le café, il y a beaucoup de petites choses qui l'accompagnent. Justement, quand vous dites que c'est un produit exclusivement pour le marché camerounais, parce que c'est le palais des Camerounais, vous dites qu'il y a des saveurs que vous avez supprimées parce que ça ne passait pas. C'est exclusivement pour le marché camerounais ou sur la durée, à chaque pays, on va adapter un tout petit peu?
Alors, là, mon marché principal, c'est sûr que c'est les Camerounais, mais c'est vrai qu'on constate que le chiffre d'affaires, ça commence à être principalement des étrangers. Donc, de toute manière, on a un calendrier de saveurs. Je l'avais dit sur TikTok, moi, j'ai déjà 35 saveurs, en fait.
Ok.
Et on a des saveurs qui vont s'en venir avec le temps, en attendant que celle-là se pénètre le marché camerounais. Et à vrai dire, il y a des saveurs qu'on ne fait plus, ou qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'arrivait pas à avoir ce qu'on voulait. Notamment la saveur chocolat. On n'arrivait vraiment pas à avoir ce qu'on voulait et je tenais absolument que ce soit avec du chocolat du Cameroun, puisqu'on est producteur de cacao. Mais on s'en sort pas pour l'instant, donc on a mis
on
ça de côté.
On s'en sort pas à quel niveau? Parce que au le niveau... cacao est devenu un peu cher ou parce que la qualité du cacao n'est pas toujours ce qu'on attend?
Même pas au niveau de l'extraction, ça, j'ai pas le retour en tasse que je veux pour une saveur chocolatée.
Ça, j'y arrive. Le chocolat doit dominer le café ou ça doit être 50-50?
Non, je veux. Il y a quelque chose que je veux ressentir et je le ressens pas.
Dès que vous l'aurez trouvé, vous saurez.
Dès que je l'aurai trouvé, je vais le lancer. Et pour le vanille, ce café-là, on l'avait appelé un peu de douceur, donc vanille et sucre de canne. On a interrompu parce que on ne s'en sortait pas, notamment au niveau du prix de l'unique fournisseur de vanille qu'on avait trouvé au Cameroun. Plus le Spice Me Up se vendait, plus le prix de la vanille aussi, ça augmentait. Donc à un moment, j'ai dit bon, stop. J'ai pas envie non plus de faire venir de Madagascar, sinon le prix du coffee drip va être très élevé.
Oui.
Donc j'arrête là et je vais voir s'il n'y a pas moyen de produire nous-mêmes de la vanille. Donc on a mis 200 plants de vanille dans nos cafés.
Okay.
On attend de voir ce que ça va donner, ça pousse lentement. Mais c'est pour ça qu'on a mis ces deux saveurs-là de côté.
D'accord, justement ça nous permet de revenir à la matière première. Il y avait déjà les champs de café de la famille, c'est de là que vient le café que vous transformez.
Le Robusta. Uniquement le Robusta.
Donc votre spécialité, c'est la culture du Robusta.
Dans le Mongo, c'est le Robusta. Pour l'Arabica, on a un seul fournisseur. C'est pour moi le meilleur fournisseur de tout le Cameroun. Il est dans le Noun.
Ouais.
et c'est là d'où vient notre arabica. Il fait de l'agroforesterie, donc il plante entre ses caféiers des arbustes fruitiers type citrus, donc des citronniers, pamplemoussiers, orangers, et c'est les notes olfactives qu'on retrouve surtout dans le 100% arabica.
D'accord.
Encore une tasse.
C'est grâce au réseau de Papa Toujours que vous la mettez. Oh, vous avez fait vos classes un tout petit peu seul.
Même pas. Celui qui l'a rencontré, c'est mon frère. Il l'a rencontré au Paris Coffee Show.
Ah, d'accord.
Il m'a dit il y a 2 ans, Elvira, j'ai rencontré quelqu'un, il est comme toi, il aime les produits super fins, il a une plantation. Il disait, oh, mais c'est qui? Parce que moi, j'ai beaucoup sillonné le Noun, je te crois pas, je vois pas où ça peut être. Il me dit, ah, si, il est excellent. Et on s'est rencontrés, je lui ai dit, envoie-moi des échantillons. Parce que souvent on m'envoie des échantillons, mais après quand je reçois le camion, c'est pas forcément ça.
Et échantillons, c'est le camion.
Non, on envoie un échantillon, et ensuite quand l'échantillon est plein, on demande d'envoyer le camion. Mais parfois le camion, c'est pas comme l'échantillon, c'est moins bien.
On se retrouve avec.
Je lui ai demandé de m'envoyer juste 200, 300 sacs quand j'ai vraiment commencé graduellement, parce que son café, comme il est de qualité, il est très cher. Et son café, son arabica, il est excellent. C'est quelqu'un de droit, il fait tout super bien, il est carré. Et c'est rare d'avoir absolument rien de négatif à dire sur un fournisseur de café. Il est juste excellent.
Bah justement, est-ce que sur le long terme, avec la marque qui va grandir et tout ça, on pourra continuer à travailler avec seulement lui, ou on cherche encore des pistes pour trouver éventuellement d'autres producteurs?
C'est aussi au Camerounais de me mettre dans l'embarras. Commander beaucoup de coffee drip et on va voir si on doit forcément chercher d'autres fournisseurs. Mais il a les capacités pour l'instant de nous fournir. C'est aussi lui qui nous fournit sur l'autre marque de café, Ménage à Trois. Donc
pour l'instant, ça va.
Ça se passe très bien. Et puis il est toujours il est dans une dynamique d'expansion. Donc il est toujours sous pépinière, en train de planter de nouveaux arbustes, des nouvelles variétés. Donc
aujourd'hui, potentiellement, pour des cacaoculteurs, des caféiculteurs, je ne sais pas pourquoi j'en reviens au cacao. Pour des caféiculteurs qui nous intéresseraient, qui nous écoutent et qui se disent j'ai peut-être envie qu'elle teste le mien pour voir si ça pourrait marcher, avant de voir s'il peut vous envoyer pour que vous testiez éventuellement, c'est quoi, on va dire, quoi, le cahier de charge, les conditions pour que vous travailliez avec un caféiculteur du terroir?
Alors je dirais comment dire, je perds mon mot, la stabilité, en fait. Il y a un terme pour ça. La constance, voilà. Le problème, le plus gros problème qu'on rencontre souvent au Cameroun, c'est la constance. Parfois, au début, il y a toute la bonne volonté du monde, c'est super beau, super bien au début, mais ensuite, sur 5, 10, 15 ans, il y a des couacs. Donc, il faut la constance. Si ton champ, si on veut faire la promotion d'un café bio, j'ai pas envie, quand je vais faire des analyses, emmener mes agronomes sur ton terrain, voir qu'il y a des moments où tu as mis n'importe quoi dans ta plantation. Le bon tri, le bon calibrage, le bon usinage de l'arabica, mais en fait, je dirais même surtout la bonne récolte. Donc, les petites mains dans les plantations vont faire du striping, donc tirer toute la branche avec tous les grains qui sont mûrs, pas mûrs. Donc ça commence dès là en fait, ça commence très 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 tôt. Et donc il faut quelqu'un qui ait soit la volonté de changer, qui me montre qu'il veut améliorer ses process. Donc petit à petit on va acheter son café un peu plus cher. Mais si on doit mettre le prix, payer 3000 francs, 3500, 4000 francs le kilo, il faut que derrière ça suive et que ce soit constant. Il ne faut pas qu'à chaque fois j'ai peur de pouvoir passer une grosse commande parce que je ne fais pas confiance au planteur. Je dirais que c'est ça le bon cahier des charges à suivre. L'entretien des sols, donc une plantation bio, la récolte, l'usinage et la conservation. Parce qu'en saison des pluies, quand le café il est mal conservé, il prend en humidité, après il peut moisir, etc.
Donc pour avoir une bonne tasse de café, tout commence par le sol.
Super tôt.
C'est très compliqué.
C'est compliqué, ça commence super tôt. Et parfois on peut avoir le meilleur café du monde, si le torréfacteur rate sa torréf, et ben on a un café super nul.
C'est tellement vraiment ceux qui font le café. J'ai envie de dire chapeau, parce que d'entendre que pour avoir la tasse, il faut que le sol soit bon, qu'on ait récolté à temps, qu'on ait récolté les bonnes graines, qu'on ait bien calibré, qu'on ait bien conservé, et qu'encore le torréfacteur doit faire ce qu'il faut exactement au moment où il faut, sinon c'est mort. J'ai envie de dire que tout le travail de l'agriculteur
pourrait être gâché par le torréfacteur ou même par l'usinier qui va mal prendre soin du café. C'est pour ça que c'est une chaîne où il faut que tous les acteurs soient conscients et vraiment professionnels.
D'accord. Au niveau de votre café, justement, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des sachets exclusivement Arabica, exclusivement Robusta, ou on fait un tout petit peu un mélange des deux en fonction de ce qu'on recherche ?
Alors, on a différentes saveurs. Chaque saveur a son petit nom et sa couleur.
D'accord.
On a le premier coffee drip qui était Perfect Blend. Donc l'emballage est complètement rose, c'est un blend justement.
Oui,
je l'appelle Perfect Blend parce que c'est mon blend préféré. Mmh. Qui est, à mes yeux, c'est le meilleur assemblage, donc 80% d'Arabica, 20% de Robusta.
Mmh.
On a le Spice Me Up, qui est le café à la cannelle justement sur lequel on s'est retrouvé en retour de stock. Donc c'est un 100% Arabica avec de la cannelle de Ceylan.
Je veux qu'on s'arrête un tout petit peu. Qu'est-ce que la cannelle vient chercher dans le café ? Pour moi qui ne suis pas café, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui, peut-être que ça va m'aider à décider.
Alors là, quand on fait, bon moi c'est parce que je suis passionnée, mais quand on regarde un peu la manière avec laquelle les peuples consomment le café depuis des siècles, il y a toujours eu des épices, surtout dans les peuples du sud, donc Afrique, etc. Et la cannelle, c'est une épice qui est beaucoup utilisée, surtout dans les peuples du Maghreb, et qui est aussi beaucoup utilisée maintenant aux États-Unis.
Ouais.
Donc là, c'est la période à laquelle on commence à mettre de la cannelle aux États-Unis, parce que c'est fall season, donc c'est l'automne. Mm-hmm. Donc on a les pumpkin spice latte, justement, qui est un mélange de cannelle, de noix de muscade, de vanille, etc.
Ouais.
Et c'est une épice qui va super bien avec le café, qui donne un très joli goût.
Okay.
En plus d'avoir plein de vertus, sur la glycémie, être riche en antioxydants, c'est une épice qui a beaucoup de vertus et qui plaît. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand je dis que les Africains aiment beaucoup les saveurs un peu épicées, etc., c'est pour ça qu'on est même en rupture.
Oui.
J'ai mal fait mes calculs, mais c'est le café qui plaît le plus.
Non, le café à la cannelle, c'est le best-seller, all time.
Là maintenant, quand on a sorti ensuite caramel, sucre de canne, ça a dépassé cannelle, mais je dirais que les deux se côtoient.
Mm-hmm.
Voilà.
Caramel et sucre de canne. Donc, ce qui veut dire que celui-ci, si on n'est pas très fan de quelque chose de très sucré, on le fait juste comme ça, on a besoin de rien rajouter.
Rien rajouter. Le sucre, il ne vient pas endormir, je dirais, le café.
Mm-hmm.
C'est vraiment une tasse qui est vraiment équilibrée. Vous avez l'équivalent par drip d'un sucre. Ça ne va pas au-dessus.
D'accord.
Voilà.
Un sucre
uniquement.
Et le café qui fait souvent être fort là.
Un sucre. Mais justement, avec cette méthode d'extraction là, votre café il est pas fort, parce que souvent les personnes me disent oh j'aime pas le café fort. C'est pas un espresso. C'est un café avec une méthode douce d'extraction, donc c'est comme un café filtre. Et vous avez beaucoup plus de notes olfactives avec cette méthode là. Donc c'est un café qui est doux, qui est rond. De toute manière, vous allez tester, vous allez me dire.
C'est vrai que oui, là, j'ai du mal à associer le café et la douceur, peut-être parce que ce à quoi les rares fois où je me suis laissé tenter par un café, vraiment, s'il n'y a pas le lait là.
Justement,
sur cette version-là, on ne peut pas avoir du café au lait.
Alors, pas encore, on y pense. On avait un nom et une recette avec même pas avec du lait de vache, mais un lait végétal.
Mm-hmm.
On travaille dessus.
C'est vrai que de plus en plus avec les intolérances et tout ça, là, si on fait avec un lait végétal, ça peut parler à beaucoup de monde.
Ouais. Et comme je veux à chaque fois que tout vienne du Cameroun, c'est ça qui prend un peu plus de temps.
D'accord. Au niveau des recettes, vous travaillez avec des gens en particulier, ou bien vous imaginez, vous faites des associations et puis on fait des tests?
Alors, beaucoup, ça vient de moi, de mon imagination. Après, on a juste uniquement un seul ingé agronome qui, lui, va faire le travail le plus pénible en fait, c'est-à-dire écrire le grammage prêt, le temps de torréf, tout et mettre dans un drive. Et sinon là principalement ça vient on va dire de mon imagination, mais j'ai envie de vous dire mon imagination elle est pas encore au travail là pour l'instant.
Mm-hmm.
Je pense que ça
pour l'instant c'est
autres,
du classique.
C'est du classique, voilà. Mon imagination elle va arriver
dans les 35 autres
les autres saveurs. Et j'ai vraiment hâte. Après, j'ai déjà une saveur que j'aimerais lancer l'année prochaine.
Qui le est café vraiment, au piment
Non, mais... je ne veux pas lancer ça maintenant. Je vais lancer un café qui soit vraiment... Là, ce sera vraiment un café inspiré du Cameroun. Mais j'en dirai pas plus.
On a de toutes les façons... Quand l'info sera dehors, tout le monde sera au courant. Ça prend combien de temps justement de trouver la bonne recette, les bons grammages? On peut prendre combien de temps avant de se dire que oui, ce produit, on peut le mettre sur le marché?
Comme j'ai dit, ça va dépendre des personnes qui vont déguster.
Mmh.
Donc tant qu'on n'a pas sur 10 personnes, 20 personnes à qui on va envoyer les coffee drip en test, mm-hmm. qui vont nous dire ok là pour moi c'est bon, là pour moi c'est bon. Si 80% ne dit pas là c'est bon, c'est qu'on va encore continuer un peu à essayer.
Non, on teste sur combien de personnes à peu près à chaque fois?
Bah là, l'année dernière, on a testé sur des centaines et des centaines de personnes. On a vraiment testé sur des centaines de personnes. Après, moi, j'ai l'avantage aussi d'avoir fait une formation. Donc, je sais ce que c'est qu'une bonne tasse de café, avoir une tasse bien chargée. J'essaie de ressentir toutes les notes olfactives. Ensuite, après, je vais passer aussi par des pros, là, des coffee graders, mm-hmm. qui vont me dire, bon, là, tu peux t'arrêter de chercher. La tasse, elle est bonne.
OK.
Voilà. Mais c'est vrai que si on doit attendre que 100% des personnes disent on va jamais s'en sortir,
C'est presque impossible d'avoir 100%. Impossible.
C'est le point qui nous a mis le plus de temps à trouver un terrain d'entente, c'est sur le grammage. Mmh. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, je lance des coffee drip, je vais essayer de faire comme les leaders du marché, par exemple, français.
Ouais.
Et souvent, ils vont mettre 7 grammes de café, mmh. un tout petit peu plus que dans une capsule.
Ouais.
Mais quand je faisais quand je vendais mes drips avec 7 grammes, tout le monde me disait, mais j'ai l'impression d'avoir de la flotte.
Il n'y a pas assez de café.
C'est pas du café. Je me disais, ah ok, d'accord. Et j'augmentais. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis monté et ça à 16.
On a trouvé le bon.
Ah oui, à 16 grammes, donc plus du double. On m'a dit là c'est bon, on a une bonne tasse de café.
Là on confirme que le palais camerounais n'est pas le palais français. 7 grammes c'est bon, ici non, là il faut que ce soit beaucoup plus fort.
Que ce soit une vraie tasse, faut que la personne ait vraiment l'impression d'avoir une bonne tasse chargée avec du corps, tout sentir, et que la tasse aussi ait la couleur noire du café. C'est vrai que il y a ce petit côté un peu speciality coffee, torréfaction très light, très peu de café chez par exemple les Français qui font des cafés assez de spécialité avec les coffee drip. Il y a très peu de café dedans, mm-hmm. et ça nous va parce qu'on va chercher autre chose.
Ouais.
C'est pas le cas des Camerounais.
Voilà.
Et comme je veux que ça plaise aux Camerounais, bah moi j'ai mis 16 grammes de café.
Voilà, les autres vont s'habituer aussi au café comme les Camerounais les aiment, puisqu'on s'habitue au café comme plein d'autres peuples les aiment. Ouais. Je sais que vous attendez la partie où on parle de prix et de tout ça. Prenez votre mal en patience, on va marquer la pause habituelle de ce programme et on se retrouve tout à l'heure.
Le passager du jour dans Classe Éco.
Classe Éco.
Pause. Classe Éco se passe aussi sur notre application. Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun.
Classe Éco pour découvrir et célébrer la diversité des parcours de vie. Le passager du jour dans Classe Éco.
Nous sommes de retour dans ce studio pour la deuxième et dernière partie de notre échange avec notre passagère du jour, Eldira Njakin, promotrice de Graceland Coffee. C'est donc un café 100% camerounais, tous les ingrédients qu'on ajoute, c'est-à-dire que c'est le Cameroun qu'on boit. Il n'y a pas de demi-mesure. Elle a tenu à ce que ce soit vraiment un café fait pour le palais des Camerounais. Ce sont eux qui l'ont testé et tout ça. On a parlé des différentes saveurs. On avait caramel et sucre de canne. On a un qui est un 100% arabica. On a un qui est un mélange de 80% d'arabica et 20% de robusta. Et puis, celui qui n'est pas là aujourd'hui, c'est celui qui est à la cannelle. Donc, c'est les quatre saveurs qu'on a pour l'instant. Du coup, en termes de... Comment on dit ? On vend pas un sachet, c'est des paquets.
Oui, bon, y a la station Total qui vend en individuel,
okay.
et en box.
Donc quand c'est les box, il y a combien de sachets dans une box?
Il y en a 10, il y a toujours 10 coffee drip dans une box.
10 coffee drip dans une box. Maintenant, plus les ingrédients sont différents, plus les prix sont différents, je suppose.
C'est ça.
Donc, café et cannelle, ça coûte
5000 francs.
5000.
La box de 10.
Café et cannelle. Ouais, une autre pour vous, si vous venez me demander les infos après, j'ai tout. Ensuite, on a quoi? Perfect Blend.
Perfect Blend, 5000 francs aussi.
D'accord. Les prix commencent à changer. À quel carrefour?
Aux deux autres.
100% arabica.
À 5500.
500 là, c'est pourquoi?
Bah écoutez, on fait nos calculs. Hein. Là, on est sur du 100% arabica. Ça coûte beaucoup plus cher que les blends.
Mm-hmm. Voilà. Vous comprenez, on vous explique une fois. Il pose la question pour vous qui êtes à la maison parce qu'on se connaît. Pourquoi il y a 500
Caramel, et on a fait un effort d'ailleurs, regardez, parce que le 100%, le Spice Me Up, c'est du 100% Arabica. Mm-hmm. Mais on a laissé au même prix que...
Alors qu'on ajoute encore la cannelle.
Alors qu'on ajoute de la cannelle.
Donc, on commence à faire les sacrifices sur le 100% Arabica. Pure.
Exactement.
5500. Caramel et sucre de canne.
6000 francs la box.
Hey, c'est le sucre de canne là qui fait ça. Hein.
Et le caramel aussi.
6000.
Oui.
Même si le prix change, c'est toujours 10 coffee drip.
Toujours.
Dans
toujours.
Chaque box.
Toujours.
D'accord.
Je sais que les personnes qui ont déjà acheté 5, 6, 7 fois commencent déjà à me demander à faire des box avec des saveurs mélangées. C'est ce qui revient le plus.
Oui, ça
et
arrive.
Des box avec plus de drip dedans. On travaille dessus. On travaille dessus.
Peut-être qu'il y aura une surprise pour Noël, la fin d'année. Je sais que c'est souvent un moment où les marques se déploient très, très, très fort pour les consommateurs. Donc, ayez espoir que votre cadeau de Noël arrivera d'ici début décembre. Sait-on jamais? Parce qu'en offre, on travaille. Donc, on a ces quatre saveurs-là pour l'instant. Et justement, vous disiez que ça, c'est les formats pour les particuliers et tout ça. Pour ceux qui le veulent, mais il y a un format pour les hôtels, s'il y a des hôteliers qui nous écoutent éventuellement.
Oui,
ce moment.
Les hôtels, ça vient dans des box de 40.
Mm-hmm.
Ça vient dans des box de 40 et il n'y a pas cette box là que bon, nous on la voit, les autres verront peut-être sur Instagram, mais il n'y a pas cette box individuelle de 10.
Mm-hmm. Donc c'est une grande box.
Voilà, c'est une grande box, il y en a 40.
Ça mélangé permet... ou bien non, c'est par.
Mélangé. Les hôtels peuvent me demander toutes les saveurs qu'ils veulent. Ça leur permet en fait d'avoir un coût qui est amoindri par rapport à ceux qui achètent la box, parce que les hôteliers, ils prennent ça sur leur, c'est une charge en fait, puisqu'ils veulent améliorer
la
qualité du service, la proposition de choix et d'offres en chambre. Donc c'est une charge supplémentaire, et pour leur retirer, on a fait une box grande avec une capacité de 40 où ils peuvent choisir les saveurs comme ça.
Et le prix reste standard ou le prix change en fonction de ce qu'ils choisissent? Ou bien pour la box de 40, il y a un prix défini? Peu importe ce qu'on, comment on décide de mélanger.
Ça va dépendre de la quantité de saveurs, en fait, les mix qu'ils vont faire.
Okay.
Mais ils ont toujours ce prix qui est toujours en dessous. Mm-hmm. En fait, eux, ils vont payer à la pièce.
D'accord.
Donc, à la pièce, ça va leur revenir moins cher.
Ok. Mais on peut faire un mélange pour le prix. Ça va dépendre de ce qu'ils choisissent.
Mm-hmm.
Voilà. Oui. Donc, s'il y a des hôteliers qui nous écoutent et qui veulent proposer du café, du vrai café, sans s'embêter de la machine et tout ça, bah, vous pouvez contacter Grassland. Sinon, pour ceux qui veulent acheter pour leur propre consommation, on achète des produits où?
Alors, on est à la station Total Consamba, on est chez Bao, aussi à Consamba, chez Parthenon.
Forcément, c'est la maison, on fait comment
ça. Et on est chez Maïma Elixono à Yaoundé, qui est le seul point de vente physique en dehors de Consamba. Et sinon, tous les autres clients, on fait la livraison en agence de transport. Donc à Douala, on livre chez EasyCar.
Mm-hmm.
Et à Yaoundé, on livre chez Charter, donc soit Olembe, soit Bimasi.
Mais avec tous les Maïma, j'ai envie de demander pourquoi seulement Elixono pour l'instant. C'est pas le type où quand on négocie pour toutes les... Ou bien on fait le test là-bas d'abord et puis après vous verrez.
Alors les Maïma, c'est pas comme... ils ont pas une centrale un peu comme Sodicam, qui a Super U, Casino, etc. Non, chaque Maïma, c'est une petite famille qui gère son Maïma. Et puis ils sont cooptés les uns les autres, ils discutent entre eux, mais chaque Maïma gère.
Okay.
Et donc j'étais en contact aussi avec Maïma de Warda, on est encore en train de discuter.
Ouais.
Mais celui qui a été
le plus rapide,
le plus proactif, qui a dit « Oh, j'aime trop ce produit, je vais pas essayer de mettre des marges énormes, on va travailler ensemble », c'est Maïma Elixono.
D'accord. Voilà. Donc, on peut réexpliquer un tout petit peu le principe. Je ne sais pas si Agirès ou Viali de l'autre côté de nous ramener une tasse avec de l'eau chaude pour qu'on puisse montrer concrètement au-delà des dents, enfin, en conditions réelles dans le studio de volume 3. Émile, attends, tu vas boire le café après. Je dis aux auditeurs une fois.
Ok, apporter trois tasses.
Il ne faut pas attraper. On va faire le test pour une seule tasse. Le reste, vous allez attendre la fin de l'émission. Sinon, on ne va pas finir l'émission s'il y a les buveurs de café. Donc, Donc tu peux avoir une tasse de l'eau chaude et te faire le test en conditions réelles pour montrer également à nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux comment ça marche, qu'on a testé. On ne vous dit pas seulement, elle est venue avec le café, il faut bien qu'on teste. Donc le temps que ça arrive. Justement, ce produit, comment il est reçu sur le marché? Déjà, on s'en bat alors, à la maison, mais...
Vous savez quoi? Il est surtout bien reçu à Yaoundé.
Ah bon? Encore, on n'est pas dans les choses compliquées.
Moi, je vais parler vraiment factuellement en termes de chiffre d'affaires.
Oui.
C'est Yaoundé qui propulse le Cameroun, j'ai envie de dire ça. Mm-hmm. Et ensuite,
parce que pour l'instant, à Douala, il n'y a pas de point.
Mais il y a beaucoup de personnes qui commandent à Douala. En fait, on est tout le temps à l'agence Sizika. On nous connaît même déjà maintenant.
Donc, quand on venait, on est seulement pour...
Oui. Ils disent Graceland, mettez. Maintenant, on n'a même plus besoin d'attendre forcément de payer. On comptabilise à la peut-être 2-3 jours tous les colis.
Mm-hmm.
Ils nous sortent le ticket parce qu'il faut qu'on prouve quand même aux clients que voilà, on a expédié votre colis.
Oui.
Et ensuite, on vient et on paye une fois tout.
Donc, tous les jours, il y a des expéditions Douala, Yaoundé.
Tous les jours. Mais Yaoundé en tête. Mm-hmm. Et je ne m'attendais pas à ça, vous savez.
Pourquoi?
Parce que quand j'ai fait ma démarche commerciale, mm-hmm. quand on a vraiment lancé officiellement au mois de mars, j'étais tout le temps à Douala.
Ouais.
J'ai sillonné tous les hôtels, tous les magasins. Il n'y a personne.
Ça n'intéressait personne.
Ça n'intéressait personne. Je suis allée à Yaoundé. J'ai fait une journée.
Mm-hmm.
On m'a accueilli les bras. Je me suis dit, mais...
Pourquoi je perdais mon temps à Douala?
Tout le temps que j'ai dépensé, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, ok.
Oh, mais ça fait partie de l'expérience et de l'histoire de Graceland.
Oui. Et donc, je me suis dit, ok, bon, pour Douala, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma com sur les réseaux. Les particuliers vont me contacter comme ils font déjà et je vais leur expédier. Et sinon, je vais faire un petit focus sur Yaoundé parce que je sens qu'il y a vraiment une demande. Et donc, j'ai refait de la prospection.
Mm-hmm.
Et j'ai eu des hôtels qui me commandent des centaines de drips, 200, 300, 400 drips. Et donc, je sais pas pourquoi, mais c'est ça, Yaoundé.
Parce que, bon... Peut-être parce que les gens, il y a déjà dans les villes très 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 administratives, je sais pas, c'est
peut-être,
les gens qui ont le café et tout ça, il y a peut-être plusieurs raisons. Et du coup, éventuellement,
oui. Je te coupe, excuse-moi. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de commandes à l'international.
Mm-hmm. C'est les Camerounais qui repartent ou bien c'est des étrangers?
Des Français qui vont payer les frais DHL. Au début, j'étais très hésitante.
C'est pas rien.
52 000. Mais vous achetez pour 10 000. Il dit oui, envoyez. Et on l'a fait tellement de fois. Donc j'ai envie de dire, après Yaoundé, c'est même en dehors du Cameroun.
Donc il est temps que Douala soit au courant. Ouais, si vous n'êtes pas encore, il y a les coffee drip.
Oui.
Ce qui veut dire que vous recherchez également éventuellement des distributeurs à Douala, mais que vous n'êtes pas pour les dépôts-ventes, c'est ça?
Je ne suis pas trop pour. Surtout au début comme ça. Quand on se lance, on veut voir le cash rentrer pour rapidement le réinvestir.
Mm-hmm. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est plus quoi? Des amoureux de café où il y a quand même des curieux. Vous arrivez à savoir s'il y a des curieux.
Il y a plein de curieux. Et en fait, c'est le packaging qui font que j'attire les curieux.
Et ils me l'ont dit. C'est sûr que c'est du café, je vais un peu tester.
Ouais. Ils me disent, c'est étrange, j'ai jamais vu du vrai café sans machine. Ah, le packaging, il est beau. Oh, je vais acheter pour offrir. Donc, les curieux sont attirés déjà par la méthode d'extraction qui n'ont jamais vu, qui n'existait pas au Cameroun. Et ensuite, par le fait aussi qu'il y a des saveurs.
Ouais.
Parce que quand on va dans les rayons, ça n'existe pas, des cafés moulus avec des saveurs.
Ouais. Vous êtes donc vraiment celle qui est anti-café soluble. Vous voulez que les gens changent ça. Il faut tout inverser.
Ouais. Anti. Parce qu'on ne peut pas être un pays producteur avec des producteurs, des planteurs qui essayent de faire du café d'excellence et ne pas le consommer soi-même.
Ouais.
Moi, ça me fait mal à la tête de voir... parce qu'on est aussi, comme je disais tantôt, à la base, on est une structure qui exporte.
Mm-hmm.
Il faut voir comment les Italiens, les Japonais, les Coréens, les Français... les grosses structures importateurs canadiennes, françaises, ils viennent à Consamba, ils vont venir ramasser tout le bon GG, les meilleurs grains, et ensuite nous on laisse avec la poubelle. Pourquoi? Non.
On va dire que parce que nous on transforme pas.
Non. On va transformer et on va délivrer aux Camerounais un café top niveau.
D'accord. Justement, au-delà des réseaux sociaux, est-ce que vous avez prévu ou bien on a déjà fait des événements quand même avec l'ONCC? Comment est-ce que vous comptez continuer à vulgariser, à faire connaître Graceland sur le marché?
Bon, là, j'ai commencé à mettre des hôtesses. Mm-hmm. Donc, elles sont surtout dans le Mongo. Parce qu'après, il faut toute une structure pour avoir les hôtesses, les déployer loin.
Elles sont surtout dans le Mongo. Comment ? Comment ?
Mais j'aimerais avoir une hôtesse à Yaoundé.
Il faut d'air.
J'aimerais avoir des hôtesses sur certains, déjà dans les Maïma à Yaoundé, mm-hmm. et assister à des événements dédiés à la filière café. Donc là, en date, là, comme ça, j'en ai pas. Mais on travaille dessus. On est déjà en train de bosser avec un de nos fournisseurs sur un stand, mm-hmm. avec des roues qu'on peut facilement déplacer. Donc on travaille dessus sur
d'accord, on espère que le prochain concours de barista, comme le fait souvent l'ONCC, peut-être que parmi les cafés qu'on va utiliser là-bas, il y aura Graceland. D'accord, justement, le produit est sur le marché depuis mars. Mm-hmm. Niveau rentabilité, on y est déjà quand même.
On a déjà dépassé notre point mort, on peut dire que c'est un produit qui est rentable. Donc là maintenant on cherche juste à faire grossir la marque, à faire du chiffre, mm-hmm. pour pouvoir passer à un autre niveau.
Justement, c'est quoi le prochain objectif, je sais pas, à court terme là tout de suite. C'est plus les saveurs, c'est plus...
Non, je dirais que c'est un objectif de vente. Mm-hmm. On a un nombre de drips un peu symbolique comme ça dans notre tête qu'on aimerait atteindre. Pardon. Et avant de pouvoir même commencer à lancer
d'autres saveurs.
Une sixième saveur, parce que la cinquième, je veux vraiment la lancer vu que c'est un truc qui me tient à cœur, c'est un drip inspiré du Cameroun. Mm-hmm. Mais ensuite, toutes les autres saveurs, ça va vraiment dépendre du chiffre d'affaires. Parce que c'est bien beau d'avoir plein d'idées, sortir des saveurs comme ça, mais après, il faut que ça rapporte.
Oui.
Il faut qu'on puisse payer les équipes.
Oui.
Et ensuite, il faut qu'on puisse investir dans des équipements. Mm-hmm. Puisqu'il y a des personnes qui vont forcément, ça commence déjà à nous demander des formats pour ceux qui ont les machines.
Oui.
Voilà, donc ils veulent du 250, du 300 grammes. Donc si on veut, il faut avoir un torréfacteur un peu plus gros, mm-hmm. puisque là on est sur un plus petit torréfacteur vu que c'est des drips au gramme.
Oui.
Donc voilà, il faut investir, avoir une unité différente de l'ancienne unité. Donc tout ça, ça prend des millions.
Et tout ce sera toujours en consamba. Ça va devenir un tout petit peu un temple du café, de la transformation et tout ça.
Oui, j'aimerais bien que ce soit une grosse structure dédiée au café. Mmh.
D'accord, de toute façon, comme ça, quand on viendra en Consamba, on va se dire qu'on a dit qu'il y a une usine qui n'est pas SS. Est-ce que je peux aller regarder? Ça fera peut-être partie des circuits de découverte aussi de ces contrées-là.
Alors, à vrai dire, il y a beaucoup de personnes qui veulent visiter l'usine et j'interdis ça. Mm-hmm. Parce que c'est une usine.
Oui.
C'est pas un site touristique.
Ouais. Les gens sont toujours curieux.
Les gens ne peuvent pas venir dans un endroit où on fait de l'agroalimentaire, mm-hmm. se balader. Il y a personne qui part visiter les usines de Nestlé, par exemple. Vous voyez.
Chez nous, donc, ici, on veut toujours voir l'usine.
Oui, oui. Donc, moi, je suis en réalité contre. On peut visiter les plantations.
Oui.
Si on doit visiter l'usine, il faut qu'on mette tout à l'arrêt. Et ensuite, quand vous partez, il faut qu'on nettoie tout de fond en comble. Mm-hmm. Donc, en fait, il faudrait que ce soit peut-être une journée bien définie longtemps à l'avance.
Ouais.
Pour que les personnes qui sont vraiment fans de Graceland ou de Ménage à Trois, etc., puissent venir visiter. Mais l'usine, c'est pas un site touristique.
D'accord. Voilà. Bah, parce que beaucoup ici, c'est quand on doute un peu, c'est Camerounais et tout ça. Est-ce qu'on peut voir l'usine? C'est une question que j'entends depuis 5-6 ans. Je demande souvent.
Je comprends, parce que souvent, les personnes vont faire leurs produits back-back dans l'arrière-cour, dans la cuisine. Ce qui est bien avec Graceland, c'est que nous, on a les certifications.
Oui.
On a la NOR, on a les tests phytosanitaires de l'Institut Louis Pasteur,
oui.
on a des codes barres GS1, mm-hmm. on est dans les règles, et on a le site internet sur lequel on peut voir les chaînes d'usinage, etc. Donc, si la personne est curieuse, elle peut aller voir les autorités compétentes pour savoir si vraiment... c'est vrai tout ce qu'on raconte, mmh. mais elle ne viendra pas avec ses gros sabots se balader dans notre laboratoire et dans notre usine, ça c'est hors de question.
Ouais. Après, il y a aussi les secrets au-delà de tout, mais qu'est-ce que vous diriez à un amoureux de café qui entend parler de Graceland pour la première fois, qui découvre, qui n'a pas encore consommé, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il franchisse le pas, ou à quelqu'un qui n'aime pas le café du tout?
Alors, je lui dirais de se laisser tenter par un produit innovant, qui est fait avec amour et passion, qui est bio, qui est parfaitement exécuté, c'est-à-dire de la pépinière jusqu'à la tasse, en passant par la torréfaction, la récolte, et de se laisser surprendre par les saveurs. Voilà, surtout si c'est un Camerounais, je pense qu'il aura forcément pas forcément goûter des cafés à la cannelle, au caramel, et de se laisser porter. Et je pense qu'il va être agréablement surpris.
D'accord. On va dire que on attend que Graceland envahisse un tout petit peu le marché à Douala aussi, puisque pour l'instant c'est pour les livraisons. Et justement, si on veut se faire livrer, on appelle qui, on fait comment?
Alors on va sur WhatsApp ou sur Instagram, sur TikTok, il y a le numéro de téléphone pour les commandes.
On peut le donner aussi?
Oui, c'est le 690-88-13-63.
690-88-13-63. Voilà, ouais. Je fais le standard pour vous.
Voilà. Et donc on va prendre votre commande. Vous allez nous dire le nombre de box que vous voulez, les saveurs que vous voulez.
Même une seule, on livre?
Bien sûr.
Ok.
Voilà. Les frais de livraison, ça reste toujours les mêmes. Même quand ça nous coûte un peu plus cher, on laisse à 1500.
D'accord.
Voilà.
C'est donc, vous avez compris.
Pour la maison, on
laisse entre 5 et 6 000 plus 1500 de frais de livraison. Et puis, vous pourrez profiter de Coffee Drip Grassland. Merci beaucoup, yes. Elvira Ndiakine, d'avoir fait le déplacement, d'être
merci
venue nous parler de ce produit.
Merci beaucoup.
Qui, j'espère, va envahir les étals, les points de vente des supermarchés très, très bientôt. Et qu'en passant, je dirais, ah, mais je connais. On va souhaiter tout le succès que cette marque-là, 100% camerounaise, mérite.
Merci infiniment de m'avoir reçu et merci aux auditeurs qui vont s'intéresser, nous suivre sur les réseaux ou passer une commande.
Voilà. Merci. Voilà, nous, on va prendre une autre pause. On va le temps de libérer notre passagère du jour. Et ensuite, quand on revient, on va au marché.
Le passager du jour dans Classe Eco.
Hey, c'est pas parce que tu quittes ton véhicule que tu ne peux pas continuer d'avoir la vibe. Télécharge l'application sur Play Store. Volume 3 Cameroun.
Après cette petite pause, on est de retour dans ce studio. Il est un peu plus de 11h31. Il est temps pour nous de nous rendre au marché. Aujourd'hui, avec Vialingueya, on va acheter des pommes de terre.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
J'ai commandé des frites pour accompagner mon plat de poulet au cours d'un rendez-vous au restaurant récemment. Mais quand l'addition est arrivée, une question m'a traversé l'esprit. Pourquoi ce simple accompagnement coûte aussi cher? Est-ce le prix de l'huile ou les pommes de terre elles-mêmes? Pour comprendre, je suis allé au marché Double Balle à Bipanda qui, selon les discussions de quartier, semble abordable pour l'achat de nombreux denrées alimentaires. Entre les vendeurs en boîte, les bruits des commerçantes et les clients qui discutent le prix, maman Hélène, vendeuse de pommes de terre, est bien installée depuis plusieurs années. Je m'en remets à son expérience pour en savoir plus sur la commercialisation des pommes de terre.
Comment on reconnaît la bonne pomme?
C'est selon les terres. Parfois les bonnes pommes là, comme Bamenda, quand tu épluches Bamenda, parfois c'est mou. Mais quand tu prépares, c'est très bon, fariné.
Comment on conserve les pommes?
Pour conserver, quand tu achètes, tu arrives, tu verses au sol. Parce que tu déposes ça dans le sac, ça va chauffer et la chaleur va faire que ça va pourrir.
Et le seau actuellement, ça coûte combien?
Le seau coûte 1000 francs, 1200, 1300, 1500. Et bon, disons, c'était la bonne période des pommes. Mais en ce qui concerne les petits problèmes qui sont en route, c'est ça qui fait que c'est un peu élevé. Problème de transport, quoi, de voiture. J'achète le sac de pommes à 34 000. Je paye la moto. Ça m'amène ici à 35 000. Oui.
Et quand les pommes ne sont pas chères, ça coûte combien?
Quand les pommes ne sont pas chères, même à 20 000, tu peux porter le sac. Et les filets aussi. Bon, les filets sont à 15 000, 18 000. Et les demi-demi aussi sont à 9 000 quand c'est pas cher. Mais présentement, le filet est à 23 000, 24 000. Et il n'y en a même pas assez.
Pour ce qui est de leur provenance, les pommes viennent principalement des Grassfield.
Vos pommes sortent de quel village?
Et mes pommes sortent de Bafoussam, Bouddha, Chang.
Les bonnes pommes sortent de quel village?
Les bonnes pommes sortent de Bamenda.
Au fil de mes échanges, une question revient souvent dans la bouche des acheteurs, la conservation. Beaucoup se plaignent que les pommes de terre pourrissent rapidement, faute de bonnes conditions de stockage. Pour en avoir le cœur net, je tends mon micro à une consommatrice en plein achat.
marché des pommes de cette période abordable. Les prix sont passables par rapport à l'année passée. Le plus c'est pour préparer. Parce que dit pour les enfants le matin là, c'est un peu trop. C'est un peu de trop selon mes moyens de poche.
Quand tu achètes les pommes, comment tu conserves?
Je prépare sur place. Je prépare directeur comme ça parce que c'est d'une part. Puisqu'il y a les différentes pommes, non, il y a le pinceau, il y a le bamenda, tout ça.
Comment tu fais un peu connaître la pomme?
La pomme comme c'est celle qui est jaune. Jaune de don. Si j'essaie un peu de faire ça, bien jaune, c'est la bonne pomme. C'est fariné, bien sec.
La pomme de terre est l'un des tubercules les plus consommés au Cameroun. Cultivée principalement dans les hauts plateaux de l'ouest et du nord-ouest, elle alimente non seulement les ménages, mais aussi les restaurants. Riche en amidon et en vitamines, elle peut se consommer en pilée de pomme ou en frites et reste un aliment de base dans de nombreux foyers. Pourtant, sa conservation difficile et la variation des prix la rendent parfois inaccessible pour les moins nantis. Ici au marché Double Balle, une chose est sûre, la pomme de terre n'a pas perdu de sa popularité. En attendant une éventuelle baisse, vendeurs et consommateurs continuent de jongler avec les prix parce qu'il est difficile de s'en passer.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Merci beaucoup à Vielingeya pour ce tour au marché où on a appris un peu plus sur la pomme de terre. Pour ce qui est de la différence, j'ai envie de dire que si vous achetez les pommes de terre et qu'il a plu, sachez que ça dort, ça va pourrir. Donc toutes les précautions là, ça va être très très compliqué. Aujourd'hui, il est temps de marquer une autre escale. Nous allons à la rencontre de Marcel. Si vous avez déjà acheté du Simoncol, certainement cela a peut-être été emballé par ses soins. Aujourd'hui donc, Marcel nous parle de son métier.
Escale dans Classico.
Je suis Marcel Moto dans Simoncol. Ça fait presque 5 ans déjà. En fait, j'ai fait une demande et il est bien vrai que c'était la société d'un de mes amis. Je suis allé par le chemin normal, demandé et puis j'ai attendu. Il m'a appelé et il m'a proposé ce service. Avant ça, j'étais dans le domaine informel. Le domaine informel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vois, tu fais. Ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Mmh. Voilà, déjà, il fallait un travail aussi stable. Oui, mais ça ne peut pas fermer pendant un an ou deux ans ou trois ans. Ouais. Pour qu'il puisse fermer vraiment une société qui fait dans le ciment colle, il faut vraiment qu'il y ait faillite. Et la faillite ne vient pas subitement. Ce n'est pas une passion. On m'a proposé certains métiers dans la société, puisqu'il y a beaucoup de métiers à l'intérieur. Mmh. C'est-à-dire ceux qui travaillent à l'usine, ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont dans la fabrication des emballages, en fait. Les emballages, c'est quoi? On commence d'abord par l'imprimerie. On façonne les sacs dans lesquels on va mettre le ciment cold. Donc, les sacs qui peuvent prendre l'espace. Le poids d'un sac de ciment cold, c'est 20 kilos. Oui, effectivement, c'est ce que je faisais, le façonnage. C'est-à-dire que c'est la fabrication des sacs qui sont des emballages de ciment. Bon, il est bien vrai, moi j'étais un département à part déjà. Donc je ne dépendais pas de l'usine. Oui, c'était un département à part. Donc j'étais à l'abri des infections, c'est pas pulmonaire. Non, on n'a pas de contact direct. Mon travail concernait juste à fabriquer les sacs et envoyer à l'usine. Non, les relations sont bien, hein. Il n'y a pas de souci. On est toujours ensemble et quand on se voit, on se salue. Ça dépend maintenant, ça dépend par rapport à ceux qui sont à l'usine. Bon, peut-être ceux qui sont dans peut-être les mêmes postes, ceux qui discutent des postes, ça ne manque pas. Mais moi, je n'ai pas un problème de ce genre. Non, jamais. Jamais parce que mon département est à part. Bon, je vais dire quoi? Je vais dire que c'est à part comment? Parce que c'est moi qui recrute les gens avec qui je travaille. Non, on avait une autre structure, c'est-à-dire qu'on avait choisi un autre endroit, là où on façonnait les emballages. Le retard de salaire, ça ne manque pas. Tout, il y a le retard de salaire. Oui, mais on attend juste. Le retard, ça ne veut pas dire que ça peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il est bien vrai qu'il y a dans certaines structures, on peut même mettre 2 ans avant de vous donner quelque chose. Mais le retard de salaire, ça peut être parfois une semaine. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on peut avoir des factures impayées aussi. La société est aussi obligée d'attendre. Oui, mais il y a les crédits au quartier. Vous êtes obligé de faire le crédit en attendant qu'on paye. Soit peut-être vous vider de vos réserves, que vous épuisez vos réserves que vous avez. Le secteur informel, c'est quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est informé, qui n'est pas formé, voilà, qui n'est pas reconnu et tout. Dans le secteur informel, tout ce que tu vois, tu fais. Ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Donc, si tu arrives ici, on te dit, voilà peut-être des carnivaux à creuser, et vous discutez avec le propriétaire si le prix est bon. Si ça vous arrange, vous le faites. Si vous arrivez de l'autre côté, on vous dit, bon, voilà une voiture, est-ce que vous avez le permis aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez aller laisser cette voiture ici à Yaoundé? Vous arrangez votre prix avec le propriétaire. Si le prix est bon, vous partez. Donc vous voyez que vous allez des différents secteurs, soit vous êtes en train de conduire, soit... Bon, il est bien vrai pour certaines personnes, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont polyvalents, ils s'en foutent. Tant que ça le paye, il n'a pas de souci. Bon, en fait, dans le secteur du ciment, le ciment colle. Quand vous êtes déjà enregistré à la caisse, déjà, ça veut dire que quelque part, vous pouvez finir là-bas, parce que vous allez prendre la retraite à un certain âge, 65 ans, vous allez prendre votre retraite. Non, je n'ai aucun projet pour l'instant là, donc je vais finir dans cette structure là. Non, mais comment ils voient la chose? Est-ce que c'est eux à juger ce que je dois faire? Ils doivent voir au niveau, peut-être si je ne peux pas subvenir aux besoins de certaines priorités. Là, ça se comprend, mais juger que la famille est jugée, je pense pas que c'est la meilleure des choses, même ce n'est même pas à réfléchir. C'est un travail comme les autres. C'est un travail comme les autres, comme un policier. Si tout le monde devait être policier, personne ne devait travailler dans d'autres structures. Si tout le monde devait être journaliste, c'est qu'il n'y aura personne aux brasseries, par exemple. Si tout le monde voulait travailler aux brasseries, il ne devait pas avoir des enseignants. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Oui, nombreux, ils sont même nombreux. Déjà que quand vous venez, c'est la formation, c'est sur place. La formation pour quelqu'un qui est un peu éveillé, tu n'as pas besoin de faire une heure de temps pour déjà connaître le système, la façon de monter les sacs. Il est bien vrai que c'est étape par étape. Ça veut dire que même les premières étapes déjà, en une heure de temps, tu peux déjà connaître la première étape. Parce que quand tu viens, on te met dans l'étape la plus facile déjà. On te montre comment ça se passe. En une heure de temps, tu peux déjà t'adapter à la première étape. Et quand tu t'adaptes à la première étape, peut-être pour un jour, le lendemain, tu vas revenir dans la première étape. Le surlendemain, entre-temps, la deuxième étape, tu es en train de lancer un coup d'œil. Tu vois comment ça se passe aussi. Donc, ce qui fait que quand tu passes à la deuxième étape, ça devient aussi très facile pour toi. Pourquoi? Parce que tu travaillais étant à la première étape avec les gens qui étaient à la deuxième étape et à la troisième étape. Donc, ce qui fait qu'au courant d'une semaine, tu peux monter un sac sans te déranger. Non, la formation n'était pas payante. Ouais, le conseil que je peux lui donner, c'est d'aller chercher le travail. Il y a le travail partout, même s'il va au port, il y a le travail là-bas, la manutention. Déjà que c'est les travaux les plus faciles même déjà. Bon, quand on parle du port, il y a les endroits où c'est accessible. Il y a des endroits au port où c'est accessible facilement. Vous entrez par exemple comme à Messa Presse, par exemple. Vous êtes à Messa Presse, vous êtes déjà au port. Là, ce qu'il y a sûr, il y a des ventes de voitures, il y a les parcs de voitures, il y a ceci. Là-bas, c'est tout, c'est comme si c'est un marché. Les femmes qui vendent de la bière, d'autres de la nourriture, d'autres trucs. Tout là-bas, même ceux qui font dans le renseignement, c'est toujours un travail. Parce que c'est payant là-bas. C'est le mieux, c'est de se battre à trouver un petit endroit, un petit service, un petit travail, pour ne pas toujours être dépendant des autres, soit de ses amis. Et c'est un peu embêtant aussi que tu sois dépendant des amis. Voilà, parce que demain ou après-demain, il peut ne pas te donner qu'est-ce que tu vas faire. Ça ne sert à rien de dire que tu vas venir aujourd'hui ici, il te donne à manger, demain l'autre va te donner. Le jour, ils ne seront pas là. Ça sera comme autant mieux te battre toi-même.
Escale dans Classe Éco. Tout savoir sur les dernières innovations dans Classe Éco.
Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à ceux qui ne veulent plus du tout courir pour payer les différentes factures. Donc aujourd'hui, avec OneBills, qui est une application qui a été développée par Dawn, vous pouvez le faire en un clic. Il vous suffit donc, avec cette application-là, vous allez recevoir vos notifications. Vous pouvez gérer le paiement pour plusieurs compteurs entre post-payés et prépayés et payer vos factures avec tous les moyens de paiement disponibles. Une solution qui a donc été développée par Dawn et que je vous invite à tester. Il vous suffit d'aller sur Play Store et de taper OneBills. Vous pouvez télécharger l'application et si, ma foi, elle vous est utile, pourquoi pas la conserver. On va parler d'économie et aujourd'hui, on reste au Cameroun. Sur 28 millions d'habitants dans le pays, plus de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit près de 40% de la population. Le nombre de pauvres a même bondi de 66% au Cameroun depuis le début des années 2000, selon la Banque mondiale. Les économistes camerounais s'accordent sur ce triste constat, même s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes explications. Justement, pour en savoir plus, éléments de réponse, c'est dans Afrique Économie avec le concours de RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
Deux tiers des pauvres du Cameroun vivent en zone rurale, observe la Banque mondiale, particulièrement dans les régions du Nord, de l'extrême Nord et du Nord-Ouest. Dieudonné Essamba, ancien chargé d'études au ministère de l'économie du Cameroun, le déplore. Ces régions pâtissent de l'extrême centralisation autour des deux métropoles du Sud.
Yaoundé et Douala, 20% de la population, concentre plus de 90% de la masse monétaire. Vous ne pouvez pas développer une région comme l'extrême Nord quand il n'y a pas la liquidité à l'extrême Nord. C'est la liquidité qui alimente l'activité. Le budget doit être dépensé au Nord.
L'absence d'infrastructures a maintenu le Nord dans la pauvreté, souligne de son côté Serge Godon, PDG fondateur de Seven News et ancien directeur général délégué de l'Institut pour la gouvernance en Afrique centrale.
Entre le port de Douala et la ville de Kousséri, sur ces 1800 km, vous avez minimalement 1000 km qui sont dans un état extrêmement dégradé. Donc à peu près 500 km qui sont quasiment impraticables. Donc le coût de transfert de la marchandise participe en fait à aggraver la pauvreté.
Une pauvreté qui pousse les populations rurales du Nord Cameroun à migrer massivement vers le Sud, observe-t-il. Ce qui aggrave désormais la pauvreté dans les villes.
C'est un phénomène qu'on voit très bien lorsqu'on est à Yaoundé et à Douala. C'est que ces populations dans des zones de grande insalubrité qui occupent donc des petits métiers extrêmement en pied de la pyramide. Il y a des quartiers entiers dans les grandes villes camerounaises qui sont toujours sans eau. Donc il y a une pauvreté hydrique qui, y compris en milieu urbain, qui est assez forte.
Depuis plus de 10 ans, l'économie camerounaise subit aussi des choc à répétition, souligne le professeur Henri Ngouattabi, directeur du laboratoire interdisciplinaire de recherche en économie du développement de l'université de Yaoundé.
On a d'abord eu le choc pétrolier entre 2012 déjà, 2015, et tout de suite après, il y a eu Boko Haram, et ça continue, la crise anglophone. Ensuite, la crise mondiale, le choc Covid, vous voyez, tout ça c'est en cascade. Et les chocs sécuritaires là sont quand même extrêmement violents et perturbent énormément la relance économique et consomme même tout ce qu'on peut produire comme ressources.
Produire plus, en particulier de produits agricoles au Cameroun, c'est la priorité d'après cet économiste. La croissance de 4% que connaît actuellement le pays est insuffisante. Il faudrait qu'elle soit de 7 à 10%, juge-t-il, pour sortir la population de la pauvreté.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
Merci à tous, c'était un vol agréable, je l'espère, pour vous comme pour moi. Chaque jour, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Il est déjà temps de se dire au revoir, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Ce sera le dernier vol de la semaine et ce sera donc un nouveau vol en classico. À demain.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.
Retrouvez tes émissions préférées à toute heure.
Quel que soit le temps que ça prendra, je vous retrouverai
sur volume3media.com.